Donc Alexandre pour Philo Web qui l'a organisé, qui va nous faire, je vais proposer de nous faire un retour et puis qu'on puisse en discuter, éventuellement aidé par Henri qui était un des intervenants. Je te laisse la parole Alexandre.
Ok, alors donc pour dire d'où je parle et un tout petit peu qui je suis doctorant en philosophie à Paris 1. J'ai commencé ma thèse en décembre 2006 sur les ontologies, les foxonomies, le tagging, le web sémantique et leur rapport avec la philosophie. Un des titres, le sous-titre, c'était de l'importance d'Internet pour la philosophie et inversement. Aujourd'hui, je me suis recentré web, ce qui ne manquera pas de susciter des réactions de Alain, j'en suis sûr. Donc voilà, c'est ma casquette à Paris 1. Je suis aussi doctorant associé au CNAM, au laboratoire d'ICEN, dirigé par Manuel Zaclade, dont il a été question tout à l'heure. Récemment dirigé par Manuel Zaclade, depuis 10 jours. Je suis aussi donc résident à l'Institut de recherche et d'innovation que dirige Bernard Stiegler, en qualité de chef de projet métadonnées, où j'interviens à la fois sur des aspects recherche et sur des aspects aussi innovation. C'est les deux branches de l'Institut. Et sur les aspects innovation, donc métadonnées, tagging, standards du web, architecture du web, choses comme ça. Voilà, l'événement lui-même, donc PhiloWeb 2010, c'était le 16 octobre dernier, donc samedi dernier, il y a une semaine maintenant exactement. C'était un événement organisé conjointement par Paris 1 et l'INRIA. C'est, je crois, la première collaboration entre les deux institutions. Avec le soutien du W3C, qui est donc l'organisme qui propose les normes du web, les standards du web, et puis le soutien aussi de l'IRI, qui a capté en partie l'événement, et qui a apporté aussi sa logistique, de même que des associations philosophiques, association autour de la philosophie de l'informatique et une association sur les ontologies aussi bien informatiques que philosophiques. Peut-être d'autres partenaires que... Et l'ANR. J'ai oublié l'ANR qui a payé le dîner. C'est important quand même. Très bon dîner. Alors, l'idée de philosophie du web, je ne suis pas le premier à l'avoir eue. Avant moi, quelqu'un qui a fait sa thèse, qui a commencé sa thèse un tout petit peu avant, qui l'a terminée l'année dernière en décembre 2009, donc, qui s'appelle Harry Alpin, qui a participé à cette journée, donc chez H-A-L-P-I-N, a déjà donc illustré, je dirais, cette problématique, cette discipline que pourrait être une philosophie du web dans sa thèse. Lui-même est informaticien, il travaille au W3C, entre l'Université d'Édimbourg et le W3C. Et il a vraiment, je disais illustré, parce qu'il n'a pas thématisé cette question de philosophie du web, mais par ses travaux qui mêlaient à la fois ingénierie, philosophie et d'autres courants, je pense qu'il en a donné un excellent exemple et il fait un travail tout à fait remarquable dans le domaine des standards. Aujourd'hui, il est sur le volet informatique, mais c'est en travaillant sur ce volet-là qu'il fait de la philosophie. Je reviendrai sur son ancrage disciplinaire parce que justement c'est pas une chose aisée, on est entre plusieurs champs.
Tu as une formation en info, Alexandre ?
Non, moi j'ai une formation, j'ai fait un peu d'histoire au tout début, ensuite j'ai fait que de la philosophie. Mais déjà, comme disait Henri dans une interview qu'on a fait ensemble en prélude à PhiloWeb, le web sémantique c'est de la philosophie appliquée. Donc si on connaît la philosophie, certaines philosophies parfois analytiques ou autres, pour avoir d'autres regards, on peut quand même rentrer dans ces problématiques et puis en mettant toujours les mains dans le cambouis. Je collabore souvent avec des gens de l'INRIA par exemple, autour de Fabien Grandon à Sophie Antipolis. De mon côté, donc, je fais une thèse où j'essaie de thématiser cette question de ce que pourrait être une philosophie du web. C'est comme ça que j'ai réintitulé ma thèse en cours de route, puisqu'on peut changer le titre. Donc, je suis passé de l'Internet au web, un choix tout à fait assumé, parce que mon objet finalement était plus réduit, que les questions explicitement philosophiques étaient posées plutôt par le web et son architecture plutôt que par l'Internet. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas matière à penser philosophiquement, évidemment, Internet. Donc le lien était vraiment direct avec le web. Donc PhiloWeb s'inscrit dans cette dynamique. On essaye comme ça de constituer un champ disciplinaire. Je reviendrai, on a une discussion là-dessus avec Christian, qui n'est pas un champ disciplinaire, qui veut être une sous-niche de, par exemple, informatique et philosophie. On veut vraiment aborder le web de manière philosophique avec toutes les problématiques philosophiques parce qu'on pense que le web nous interroge, nous oblige à le penser philosophiquement. Donc c'est pas l'idée de constituer un champ, une petite niche qui serait adaptée à nos moyens. Et avec Harry Alpine, on aurait dû, c'est un manque de cette journée PhiloWeb, que j'ai organisée pour un petit peu marquer la fin de ma thèse et essayer de donner une visibilité à ces courants qui n'étaient pas forcément discutés par les philosophes. C'est un petit peu un des regrets que je peux avoir, savoir qu'il y a eu beaucoup moins de philosophes que de gens du web ou de gens d'autres choses qui sont venus. Finalement, ce sont beaucoup des ingénieurs ou des gens qui sont intéressés par le web, avec quelques philosophes, mais vraiment en nombre très, très limité. Et donc avec Harry, nous avons...
Excuse-moi de t'interrompre. En général, les représentants des sciences humaines étaient suffisamment présents, à ton avis, au-delà des philosophes, hein.
Je pense que oui, si on enlève simplement si on ne limite pas finalement sciences humaines à philosophie, il devait y avoir des gens des sciences humaines qui étaient présents, mais beaucoup moins de philosophes proportionnellement.
Il y avait quand même 70 personnes, il faut dire, à peu près.
80 le matin, okay. Ma femme a compté.
Ah, d'accord.
Et à la fin, on était 40, mais la journée a duré... Alors 16h30 pour ceux qui ont dîné et 13h pour les intervenants, donc de 8h à 21h. Donc c'était une très longue journée, parce que si les travaux en Sorbonne actuellement font qu'on ne peut pas avoir des amphis comme ça, c'est que la Sorbonne est appelée à ne plus accueillir d'événements de ce type. Donc on en a profité, on avait un amphi, donc j'ai vraiment essayé de tout mettre. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de regard réflexif sur l'événement, ça aurait dû être le l'opportunité aurait pu être offerte à l'occasion d'une table ronde que j'avais pensé organiser à la fin, ou en amont, par l'écriture d'un manifeste pour une philosophie du web que Harry Alpine et moi voulions écrire. Mais chacun ayant des obligations de son côté, lui ayant à terminer un rapport pour le W3C tournant autour des technologies du social web, c'est un vaste sujet, il a aussi dû terminer ça de son côté, essayer d'obtenir un visa, et donc voilà. Mais j'espère que c'est remis simplement à plus tard, qu'on pourra bénéficier de l'expérience de PhiloWeb pour produire justement un tel manifeste. Alors, prenons l'exemple de Harry Alpine. Harry Alpine, c'est quelqu'un qui, ici en France, est intéressé par les travaux de Bernard Stiegler. C'est pour ça qu'à l'IRI, on essaye de le faire venir comme chercheur chez nous, à l'occasion d'un FP7, donc un projet européen, une bourse Marie Curie qui lui permettrait d'étudier chez nous. Là, on aurait à l'IRI un centre international autour de la philosophie du web, puisqu'on aurait les deux représentants mondiaux qui travailleraient au même endroit, ce qui serait, on serait en pointe de cette façon. Harry Alpine, c'est quelqu'un qui travaille donc au W3C, organisme que j'ai mentionné tout à l'heure. Je pense que c'est bien d'introduire les choses comme ça. C'est un petit peu ce qu'on a fait d'ailleurs à PhiloWeb. On a introduit d'abord le W3C et la pertinence directe de la philosophie par rapport à ses travaux. Et lui, sa thèse a été dirigée par Andy Clark, qui est philosophe de l'esprit, très intéressé par, pas exactement l'inaction, mais les approches incarnées de la cognition. Il a écrit un livre très connu qui s'appelle Being There. Et il travaille beaucoup sur les cyborgs, etc. Bon, il est très connu. Il va peut-être se rencontrer avec Bernard à l'occasion de PhiloWeb 2011 à Goldsmith. Le projet, c'est un petit peu ça. Il s'était vu il y a 20 ans. Voilà. Et Henry Thompson, qui était présent à cette journée, qui lui travaille beaucoup plus sur les technologies XML, pour ceux qui connaissent, qui est vraiment un pape des technologies XML, qui lui aussi était assez réticent vis-à-vis du web sémantique initialement, même si aujourd'hui on l'appelle plus tellement web sémantique, parce que le projet a quand même changé un petit peu de visage. Tous deux finalement étaient réticents par rapport à ce qu'ils voyaient comme un ancrage dans l'intelligence artificielle. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un gros labo d'intelligence artificielle à Édimbourg, et c'est un labo qui n'aime pas du tout le web sémantique. Parce que pour eux, justement, c'est pas de l'intelligence artificielle, donc c'est très mauvais, c'est trop social, c'est n'importe quoi, etc., etc. Donc on voit déjà un petit peu la difficulté en philosophie, aussi par rapport à la formation initiale, hein, parce qu'on n'a pas tous une formation, on n'est pas tous intéressés par les standards, la technique, etc. La problématique du côté aussi de la technique, tous les gens de la technique n'aiment pas forcément ces technologies-là. Alain a mentionné plutôt, lui, je pense, son orientation s'est intéressée au possibilité des technologies fondées sur la statistique, par exemple. Et en intelligence artificielle, on n'aime pas trop non plus, parce que c'est pas un héritage où on est entièrement dans ce champ-là, où on est à l'extérieur. Donc il y a une première difficulté. Mais la chance, finalement, c'est qu'au sein du W3C, on a évidemment Tim Berners-Lee, qui peut être considéré, comme dit Henry, comme un peu le plus grand philosophe du XXe siècle. Peut-être qu'il s'en expliquera tout à l'heure. C'est une déclaration qu'il a fait.
Déclaration d'amour, j'ai oublié.
T'as dit ça. Moi, j'ai noté, là, j'ai enregistré, etc. Donc Tim Berners-Lee.
T'as perdu l'enregistrement.
Pas celui-là, celui-là, j'ai oublié. Qui donc est le créateur du web et qui a web qui a été finalement fondé à partir de beaucoup de réflexions d'ordre philosophique. Et il y a un groupe au sein du W3C qui s'appelle le TAG, Technical Architecture Group, le groupe qui s'occupe de l'architecture du web. Et ce groupe nous a été présenté à l'occasion de PhiloWeb 2010 par un de ses membres, donc Henry S. Thompson, qui ensuite est intervenu. Et ce groupe, c'est un peu comme ça qu'il l'a présenté, c'est un groupe qui s'occupe essentiellement de philosophie. Le groupe qui s'occupe du niveau le plus fondamental de l'architecture du web, c'est un groupe qui discute tout le temps philosophie. Tout simplement parce que les objets qu'il manipule, les problématiques auxquelles il a à faire face, sont clairement des problématiques d'ordre philosophique, qui rappellent des problématiques de la tradition, d'une certaine tradition philosophique autour de la question du nom propre, autour de la question de la référence, de la signification, etc. etc. Je rentre un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, mais qui, à la différence de la tradition philosophique, ne produit pas que des concepts, mais produit aussi le web. Ce qui fait quand même une différence manifeste. Et moi, mon boulot, c'est de penser cette différence. Pour résumer les choses très très vite. Mon travail, c'est de penser ce que ça change pour la philosophie. Donc l'apport de la philosophie par rapport à ces problématiques et l'apport de ces problématiques par rapport à la philosophie, puisque un certain héritage philosophique se rejoue à travers cet artefact, mais qui étant un artefact technique et un objet qui peut déboucher sur des technologies relationnelles, modifie évidemment le regard qu'on pouvait avoir sur ce qui n'était autrefois que de simples concepts théoriques. Donc ce changement là moi évidemment m'intéresse énormément. Donc, le niveau architectural a été très bien représenté à l'occasion de PhiloWeb, puisqu'il en a été pas mal question. Alors, une des conséquences qui est liée à cette immersion, enfin l'importance prise par les questions philosophiques, c'est le rapport entre ingénierie, évidemment, et philosophie. À l'occasion de PhiloWeb, on avait des ingénieurs, des philosophes un petit peu ingénieurs, des ingénieurs un petit peu philosophes, un peu beaucoup. Donc une population assez mélangée, pas beaucoup malheureusement de purs philosophes, mais j'espère que ça viendra. Ce qu'a dit Henry Thompson, c'est que souvent par rapport au web, ce qui se passe, c'est qu'il y a un travail de réflexion après coup. Hein. Ces gens-là ont créé le web, ont créé cette architecture, et puis ils sont allés très vite, parfois, et ensuite seulement qu'ils ont pris le temps de réfléchir à ce qu'ils avaient fait, y compris de prendre le temps de penser philosophiquement leur création. Donc là, il y a un travail d'après-coup, de rattrapage, de réajustement des technologies avec les pratiques, et un principe qui aussi guide ces réflexions, c'est l'idée de bonne pratique. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de dire simplement comment les choses sont dans l'absolu. Il s'agit de dire comment les choses sont, sous condition de connaître un certain nombre de déconvenus. Et c'est pour ça que c'est ici que les bonnes pratiques viennent d'une certaine façon. S'il y a une ontologie du web, c'est une ontologie qui est médiée ou réajustée par la notion de bonne pratique. Ce qui là aussi change la perspective philosophique. La perspective philosophique, c'est une ontologie, elle s'impose à tout le monde. Il n'y a pas cette question de bonne pratique qui entre en compte. Mais à partir du moment où on manipule des artefacts, on doit penser la question de la bonne pratique. C'est notamment très important et intéressant par rapport à la question du document en France. On sait que la question du document, elle est centrale, hein, chez des gens comme Bachimon, Zaclade, tout ça. Si, je dis, on peut traiter le document numérique comme un document traditionnel, les gens qui vont m'écouter vont avoir des problèmes. Parce que c'est plus exactement la même chose. Si je dis qu'on peut traiter une ressource comme un document, les gens vont aussi avoir des problèmes, parce que c'est pas non plus tout à fait la même chose. Et c'est là qu'intervient la notion de bonne pratique. Vous pouvez quand même le faire, mais vous allez avoir des soucis. Mais vous pouvez quand même essayer de le faire. Et d'ailleurs, l'architecture du web est suffisamment malléable pour avoir connu des évolutions nombreuses, et elle, alors qu'elle-même est restée relativement permanente. Hein. On a connu la guerre des navigateurs, on a connu la guerre des moteurs de recherche, on connaît beaucoup de guerres successives, la guerre des réseaux sociaux, alors que finalement l'architecture, elle, n'a que très très peu bougé. C'est son interprétation qui a surtout bougé. Et d'ailleurs, ici, les standards se pensent en termes d'interprétation. Donc c'est presque un travail philosophique, parce que à la fois on produit une réalité, mais en même temps on passe encore plus de temps à l'interpréter. Interpréter ce qu'on a produit finalement un peu avant. C'est pas au moment où on standardise qu'on produit, sauf dans des cas un peu. Enfin ça dépend des...
Sauf pour le web sémantique.
Sauf pour le web sémantique, voilà, c'est pour ça que je pensais à ça, RDF et compagnie, mais bon, on va pas... Donc ça dépend aussi des objets qu'on manipule. Enfin, tout ce travail de standardisation est évidemment extrêmement important. Christian le disait tout à l'heure, à la fois, je pense, à penser philosophiquement, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on standardise, quelle activité de pensée et de recherche, et par ailleurs, en termes de... Moi, quand j'ai commencé ma thèse, et que j'ai su que j'allais avoir comme matériaux premiers des blogs, des mailing lists, des chats, etc., en philosophie, je veux dire, ça n'existe pas. C'est inconcevable. Donc il a fallu aussi faire ce saut-là, et le web sémantique l'a permis, et le web sémantique m'a permis aussi de documentariser ma réflexion, justement parce que tout était... Il y avait une trace qui était gardée de toutes ces discussions. Et qu'un échange par mail entre Patrick Hayes et Tim Berners-Lee, pour moi, ça a plus d'importance qu'un livre écrit par je ne sais pas qui sur la question. C'est du matériau premier, c'est de la matière première. Donc il y a aussi ce changement de pratique philosophique, mais je vais y revenir un petit peu plus tôt. Donc j'ai dit que...
Juste, excuse-moi.
Oui, bien sûr.
Parce qu'on a parlé du web sémantique, je ne suis pas sûr que tout le monde, même si la majorité peut-être...
Moi, je vais laisser Henri peut-être...
savent ce que c'est, mais... Il faudra à un moment donné peut-être le...
Oui, je peux... Mais je vais mettre bientôt une présentation sur le web, là, je suis en train de réécrire. Mais le web sémantique...
C'est pour ça que ça n'a pas marché.
Voilà.
Non, mais...
Le faire web sémantique, c'est pas le meilleur.
On a la merde. Le web sémantique part d'une ontologie, on pourrait dire, qu'il y a des objets et des relations qu'on peut imaginer comme des flèches entre des choses. Et il n'y a que ça, presque, en fait. Donc, il n'y a plus que il y a que des relations, en fait. Pour évidemment décrire ces flèches, ces objets, ces relations, il faut dans un système global d'information. Il faut des noms globaux pour pouvoir nommer des choses. Donc et ça existe, on les a sur le web, on les a. Ça s'appelle des URI, des URL. Donc au lieu de nommer dans le web 1, là, où on nomme une page, on se lie vers une autre page qui peut être sur un autre serveur de l'autre côté du monde pour dire ça, c'est aller à Wikipédia, c'est... Mais enfin, vous, l'utilisateur, vous voyez qu'il y a un lien, vous cliquez dessus, mais vous arrivez sur Wikipédia. Sur Wikipédia, il y a des liens vers des documents qui sont un peu éparpillés partout. C'est ça le web, en fait. Hein. C'est un système décentralisé d'information. De la même façon, à partir de là, on peut commencer en structurant le vocabulaire à travers cette idée de relation, on peut nommer des choses dans un document. Imaginez que j'ai un profil utilisateur qui me décrive. Je peux me donner un URL dans ce document. Le document devient le sens du mot, de l'URL qui va me décrire. Donc c'est un URL qui est l'URL du document plus un hash qui va me décrire. Et là-dedans, il va y avoir essentiellement un formalisme de relation qui va me relier à mon nom, mon prénom, peut-être une clé publique, peut-être à mes amis qui vont tous être sur d'autres sites. Comme ça, on peut créer un réseau distribué. Alors, donc, on a les URL pour nommer les choses, les noms, les relations et les objets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut cliquer sur chaque chose pour trouver son sens. On arrive donc à un système... c'est comme quand on lit un livre, hein, quand on ne trouve pas un mot. Bah, le problème, c'est qu'on ne peut pas cliquer dessus. Mais si on pouvait cliquer dessus, ça s'ouvrirait, dans l'encyclopédie. L'encyclopédie, et on pourrait voir plus d'informations dessus, et chaque mot dans l'encyclopédie serait cliqué, on pourrait cliquer dessus. Voilà, donc je ne sais pas, apparemment Derrida avait pensé à la Joyce Machine, à la fin des années 80, et il pensait au sens, un peu dans ce sens-là. Et le Semantic Web, c'est les standards de comment est-ce que... quelle façon... Alors, comme c'est sémantique, il y a plein de façons différentes d'écrire ça. Tout format XML peut être considéré comme un format de sémantique.
Je suis extrêmement critique vis-à-vis du discours du web sémantique, la sémantique. D'une part, il ne s'agit pas de sens, il s'agit de référence, d'un point de vue informatique et la technique de l'informatique. Une URI, c'est une référence uniforme.
Resource Identifier.
Resource Identifier. Là, c'est un identifiant. Là, ça n'est pas du sens. Le sens est informé par derrière.
Ça dépend, parce qu'il y a mille et une façons. Et il a raison, Alexandre, quand tu dis... Enfin, Alexandre.
Henri.
Il parle, mais pour moi, c'est difficile d'appréhender ce que tu viens de dire, Henri, dans ce qui fait débat ici, qui sont les technologies relationnelles. Parce que tel que tu les présentes, tu présentes le web sémantique ici, on n'en parle absolument pas des folksonomies, c'est-à-dire du fait que le sens n'arrive pas par la procédure technique, mais arrive bien par l'intentionnalité des personnes qui vont interagir avec ceci. À ce moment-là, ça coûte du sens.
Dans la création de ce concept de web sémantique, ça a été l'élaboration à partir des URL, Uniform Resource Locator, de passer à des identifiants, mais à continuer à faire référence à des fichiers numériques là-dedans. Alors, ensuite, sur les relations, il y a un travail de vocabulaire et un travail fou. Du même ordre de la folie que la caractéristica universalis de Leibniz pour trouver les bons noms de relations.
Oui, alors là je vous arrête parce que c'est exactement pour ça qu'il y a des problèmes, mais ce sont des problèmes philosophiques. Parce que vos problèmes, ce sont des problèmes de compréhension philosophique de ce que fait le Semantic Web. Et pour le comprendre, il faut sortir, il faut défricher un petit peu. Et alors, moi j'aime bien, il y a une femme, Ruth Garrett Milken, qui est un philosophe de la langue, qui parle beaucoup de la langue en termes de biologie. Et je crois que c'est là qu'il faut regarder. Il faut, par exemple, cette idée que c'est pas possible. Alors, il y a les philosophes qui pensent comme vous, et il y a les informaticiens qui pensent comme vous. Parce que dans l'informatique, par exemple, en objet orienté, en programmation objet orienté, les classes sont définies à l'avance. Donc quand on donne une sous-classe de quelque chose, il faut avoir les super-classes. Mais dans le Semantic Web, on n'a pas besoin de faire ça. Vous pouvez faire un mini-vocabulaire, très vague, et s'il arrive à être utile pour vous, par exemple, il y a un vocabulaire qui s'appelle faux, friend of a friend, qui permet de décrire très, très vaguement les personnes, leurs relations à des blogs, leurs relations à d'autres personnes. Si ça peut être utile, vous pouvez le publier, vous n'avez pas besoin d'une méta-ontologie. Tout ce qu'il suffit, c'est avoir maintenant, vous me demandez où vient le sens. Alors, il y a deux façons d'arriver au sens. Le programmeur, lui, il dit, tiens, je vois ce document, je connais le Semantic Web, bon, j'ai fait un petit peu d'éducation, je ne sais pas ce que veut dire ce mot, je clique, je trouve le sens. En fait, c'est un document qui revient. Mais dans ce document, il va décrire en français, en anglais, en allemand, il peut le faire de toutes les langues d'ailleurs, le sens de cette relation. Cette sens de cette relation, on va dire, c'est une relation qui est une relation entre une personne et une personne, qu'il faut qu'ils se soient rencontrés. Alors, ça va être écrit en anglais ou en français. Le programmeur dit ça bien, d'accord, donc je vais écrire un software qui va me permettre maintenant, un outil qui va permettre les gens de lire et de produire ce vocabulaire. Lui, il le programme, mais c'est un être humain qui programme. Là, on voit bien d'où vient le sens. C'est l'être humain, le programmeur, qui crée un outil en utilisant une documentation pour utiliser et pour propager ce vocabulaire qui va permettre à des gens de recréer des réseaux sociaux distribués, qui, à chaque fois que quelqu'un rentre dans ce réseau sociaux distribué, va améliorer et va faire grandir le réseau et la valeur du réseau. Enchaînant donc, ça crée un système un network effect, où chaque personne qui rentre améliore le réseau et qui renforce ce vocabulaire. exactement comme fonctionne d'ailleurs un mot, comme se propage un mot dans la société. Quelqu'un dit quelque chose, si c'est utile, les autres vont le répéter parce qu'ils vont trouver un nouveau concept utile. Ça se répète, et le plus ça se répète, le plus utile c'est, parce que ça peut permettre plus de communication.
Ouais. Enfin, bon, je pense que ça introduit très bien la partie foxonomiste d'Alexandre.
Oui, oui.
Sur la création. Je reviendrai, je pense que j'ai des arguments et philosophiques et pratiques pour dire que...
Mais la foxonomie, ça marche très bien aussi avec... J'ai fait une tour ontologie de la foxonomie, c'est assez simple à faire. C'est très utile aussi. Et c'est juste, c'est, à mon avis, c'est un sous-groupe du sémantique web.
Il faut savoir qu'il y a 11 ou 12 ontologies des foxonomies, c'est-à-dire hybridation entre l'approche foxonomie, donc les gens taguent et on collecte comme ça tous ces tags, bon, c'est compliqué, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, et puis l'approche plus vocabulaire, standard, etc. Mmh. etc. Et les gens qui sont le plus intéressés aux foxonomies, c'est sans doute les gens du web sémantique qui en parlent tous les jours, qui adorent ça. Donc c'est beaucoup d'hybridation en fait entre ces technologies relationnelles et puis les technologies plutôt machiniques. D'ailleurs, quand on fait un billet de blog, tu posais la question de savoir si le web sémantique pouvait être justement une technologie relationnelle. Ce qui est une vraie question. Hein. Enfin, après, c'est les services, etc. Mmh. C'est pas tant que tel.
Que pour te répondre là-dessus avant de te redonner la parole, pour la distinction que je faisais tout à l'heure entre l'informatique de gestion et l'informatique relationnelle, je pense que le web, mais dans sa version, son architecture, est un milieu associé, c'est parce qu'il est métastable. C'est-à-dire qu'il a un équilibre. Mais un équilibre qui permet de changer de visage. C'est-à-dire qu'en participant au web, je modifie le visage du web. Le nombre de documents, tout ce qu'il y a. Et je pense que Tim Berners-Lee n'avait aucune vision de ce qu'allait devenir le web. Absolument. Si on lui avait dit qu'est-ce que ça serait le web dans 15 ans, même s'il est l'inventeur du web, il y a de fortes chances pour qu'il n'ait pas été capable de dire l'évolution qu'on a appelée Web 2, etc. Oui. Tout simplement parce que l'architecture du web qui a été pensée, elle était métastable. C'est-à-dire que c'était un équilibre, mais pas stable. C'est-à-dire qu'elle est bougée. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, avant même, vous l'avez évoqué lors de PhiloWeb, quand il a proposé le web à la réunion des gens qui font des systèmes hypermédias, c'était pas bon, parce qu'on pouvait faire un lien vers une ressource qui n'existait pas encore. Qui était impensable pour les gens qui étaient dans les systèmes hyper centralisés. Alors que c'était ça le succès du web. Je peux faire un lien vers une ressource qui n'existe pas, et pourtant je ne casse pas le web, parce qu'il est métastable. La question qui est posée, je crois, au Semantic Web, c'est de savoir, la question qui lui est posée, c'est de savoir à quel point la version du web qu'il porte est capable d'être métastable ou pas. Si elle est stable, ça sera une informatique de gestion avec des vocabulaires contrôlés, avec c'est la tendance intelligence artificielle, système expert. Et on a bien vu au cours de ces dernières années deux approches. Une approche intelligence artificielle qui peut avoir du sens derrière les firewalls d'une entreprise pour une problématique bien déterminée, pour faire tourner des modèles d'inférence sur ces ontologies. Mais ce qui a émergé réellement, c'est une version métastable du web sémantique qu'on appelle LinkedIn Open Data, qui est beaucoup plus pragmatique en disant mettez vos ressources et vos données sur le web, essayez de les lier entre elles, utilisez les vocabulaires que vous voulez, mais on vous suggère d'utiliser quelques vocabulaires simples comme FOF, etc. Ce qui fait qu'on est en train de constater, je ne sais pas si ça va se confirmer, mais enfin l'apparition d'un nouveau terme qui n'est plus le web sémantique, mais le web of data, qui s'inscrit dans la succession et dans l'évolution du processus qu'on appelle, nous, la grammatisation. C'est-à-dire qu'on discrétise les choses, et on est passé avec le web d'un web de documents, le relié entre eux, à un web de services, qui a été le web 2.0. Le premier service du web, c'est le moteur de recherche. La première fois où on a interrogé une page web pour faire appuyer sur un bouton, c'était pour lancer de la recherche. Et maintenant, un web de documents, c'est-à-dire ce sont plus simplement un web de données, pardon. Ce sont plus simplement des documents qui sont reliés entre eux, mais des données. Donc c'est ça un peu le web sémantique, c'est ça. Hein,
mais architecturalement, il a toujours été pensé de cette façon-là, parce qu'il est architecturé sur la présomption du monde ouvert. C'est-à-dire que toute la logique derrière, c'est une logique ouverte. Et il passe beaucoup de temps à réfléchir là-dessus. C'est qu'on peut toujours on doit toujours pouvoir ajouter une donnée. C'est pas parce qu'on a un graphe où il n'y a pas une donnée qu'on peut conclure que ça n'existe pas. Donc il y a toujours la possibilité d'ajouter de nouvelles relations. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont partis, comme je l'ai dit, qui sont partis à faire des ontologies très 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 fortes. Le problème pour moi, c'est que c'est trop compliqué à comprendre. Personne ne va comprendre ça. Il faut avoir des relations très simples, utiles et virales. Et c'est surtout dans le système, dans cette idée de viralité, que on va pouvoir faire partir quelque chose, faire partir non simplement un langage, mais à mon avis une industrie qui va faire permettre lentement à ces plus grands systèmes de bonnes parties de ces systèmes d'être prises, hein, parce qu'ils ont fait de la bonne recherche peut-être, et on va pouvoir les comparer, on va pouvoir voir si ce système ne peut pas et pas simplement la même version que ce système-là, est-ce qu'on peut faire un mapping entre les deux. Enfin, mais ça c'est à venir, la première chose à venir, c'est simplement, comme tu disais, c'est qu'on a découvert que dans le web, à mon avis, on peut utiliser la différence sens-référence de Frege.
Va amener des discussions.
Ah oui, ça c'est sûr, ça va partir. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, avant on avait des documents qui se liaient l'un à l'autre. Là, le document peut décrire des objets et qui nous permettent de trouver une référence.
Voilà. Alors juste pour
peut-être que je vais terminer là-dessus parce que je veux que tu continues. Mais il est très important quand on introduit ces questions du web sémantique. C'est la question qu'on avait tout à l'heure sur les associations. Quand on partage une conception, comment la promouvoir? C'est ce que toi, tu appelles la viralité. Le motif du web sémantique, c'est que c'était un web pour les machines. Le web que vous consultez aujourd'hui, c'est un web pour les humains. Vous comprenez une page. Parce que l'œil vous dit la mise en page, la couleur, le titre, etc. Vous savez lire. Bon. Tout ça, vous le comprenez. Mais les machines ne comprennent pas. Et à un moment donné, il va falloir passer à l'échelle. C'est-à-dire faire un web que les machines comprennent. Quand elles vont sur une donnée, ils ont la description de la donnée, ce qu'elle signifie, c'est auto-signifiant presque. Et donc les machines vont pouvoir travailler avec le web. Parce qu'aujourd'hui, les machines peuvent très mal travailler avec le web. Sauf à utiliser des langages d'extraction d'entités, d'analyse du texte, ou des logiques de moteurs de recherche qu'on connaît déjà. Mais les capacités des machines à utiliser le web, c'est un, si ce n'est le principal argument à l'origine du passage au web sémantique. C'est-à-dire, en gros, on va s'y perdre, on va pas s'en sortir du web si à un moment donné, on n'est pas capable de construire un web qui soit un web de données que les machines vont pouvoir comprendre. Comme ça, je pourrais m'adresser à une machine en lui disant, c'est des exemples qui étaient donnés au début, prends-moi rendez-vous avec le dentiste. La machine va avoir sur elle les données de dentiste disponibles, son agenda, toutes les données, et vous ressort la donnée de rendez-vous avec le dentiste. Parce que la machine a été capable de travailler avec le web. Jusqu'à présent, c'est pas possible. C'est moi qu'il faut qu'il y aille sur le web, qu'il utilise des services, voir la disponibilité, toutes ces activités-là, je les fais. Ce que demande le web sémantique, finalement, c'est à nous prolétariser d'un certain nombre de tâches, comme moi je voulais être prolétarisé de la machine à laver, j'aimerais bien être prolétarisé du rendez-vous, d'appeler mon dentiste pour trouver un créneau, etc. L'ensemble de tâches qui peuvent faciliter la vie. C'était un des motifs au début, dans la manière dont on justifiait l'importance du web sémantique. Ça va nous simplifier la vie, parce qu'on va faire un web qui va être utilisable par les robots. C'est juste la parenthèse que je voulais faire, parce que je pense qu'elle est...
Alors, il y avait la bioinformatique aussi, qui avait quand même été un domaine académique, un domaine assez porteur pour les ontologies, les applications sémantiques, etc., parce qu'on avait affaire à un domaine très fermé, où les scientifiques avaient vraiment besoin d'échanger les connaissances de manière très stricte. Donc là aussi, ça a bien fonctionné. Donc c'est intéressant parce qu'on voit des applications très académiques, puis en même temps un scénario très très commercial. Alors par rapport à tout ça, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'est vrai qu'au début, on parlait pas de ressources sur le web, on parlait encore de documents. Hein, Kim Berners-Lee parlait de documents, et puis petit à petit, les gens se sont rendus compte que c'était plus forcément des documents au sens traditionnel, notamment des documents statiques. Quand vous avez affaire à un document statique, par rapport à la question de l'adressage et du nommage, on nomme et on a accès à la même chose. document qui est statique. À partir du moment où on a affaire à quelque chose qui n'est plus statique, on est dans un web dynamique, il y a quelque chose qui demeure le même, puis il y a quelque chose qui change. L'exemple type, c'est la page d'accueil de Yahoo. La page d'accueil de Yahoo, c'est tout le temps la page d'accueil de Yahoo, mais tous les jours ou à chaque heure, elle est différente. Donc là, il faut penser qu'on accède à des contenus sans arrêt différents et qu'on identifie quelque chose qui est sans arrêt identique. Voilà, par rapport à la question de sens-référence, qui ici serait plutôt identification et accès. La question de la référence, on peut encore la laisser ailleurs. Par rapport à d'où je parle, moi, ici aussi, avant de continuer, moi, je m'intéresse beaucoup à la question de la ressource et je pense qu'effectivement, RDF ne fonctionne pas, n'est pas le truc absolu, même si c'est très rigolo à regarder, à utiliser. Je pense aussi que le web ne fait pas forcément ce qu'il dit quand on dit qu'on a fait un web d'objets, puis un web de documents, mais qu'on a accès directement à la référence. Je pense qu'il y a une médiation technique qui, elle, est à prendre en compte. Simplement, je pense aussi que si on ne disait pas, dès le départ, on se saborde en disant on n'a pas à faire un web d'objets, mais un web de médiation technique, on n'aurait même pas à faire au web de médiation technique auquel on a à faire maintenant. Si on ne définit pas des objectifs qui vont plus loin que ce qu'on est capable de faire, on ne fait rien. Donc je pense que ça a aussi eu du bon dans cette perspective-là, avec un effort qui est évidemment très difficile à réaliser, mais un effort pour aller justement vers les choses, vers les choses, avec toutes les naïvetés qui vont avec, mais aussi avec toutes les réalisations qui vont avec. Et donc ça donne doublement à penser. Penser les naïvetés, penser les réalisations, c'est formidable. On est gagnant sur les... Enfin, quand on est à l'université, on est gagnant des deux côtés. Très content. Alors... Par rapport à la philo-web proprement dit, le point de départ de cette journée, c'était plutôt les questions d'ontologie et de métaphysique. Pourquoi les questions d'ontologie et de métaphysique liées au web? Alors parce que on a esquissé les termes, on a parlé d'ontologie philosophique, on a parlé de du tag qui est un organisme qui pose des questions également philosophiques. Bernard Stiegler, qui n'a pas un rapport, je pense, facile à la question de l'ontologie, il n'a pas un rapport. Enfin, il va beaucoup en parler, en même temps, avec aussi beaucoup de méfiance. Mais il dit quand même, la question philosophique, c'est l'ontologie. Là, je l'ai entendu dire, je l'ai même enregistré.
Il faut faire attention
avec moi. La question philosophique, c'est la question de l'ontologie.
C'est là où il se différencie totalement d'Emmanuel Levinas, qui dit... La question philosophique n'est pas l'ontologie, c'est l'éthique.
Alors, par rapport à ça, après, le mot ontologie lui-même est riche. Donc, quand on dit ontologie, qu'est-ce qu'on dit? Il faut comprendre ici, quand Bernard, je crois, en parle, il faut comprendre les ontologies informatiques, notamment. Lui ne prend pas du tout en mauvaise part. Les ontologies informatiques dont a parlé Henry, hein, donc des objets, des relations, qui peuvent être aussi parfois très très complexes, avec des soubassements clairement philosophiques, les ontologies informatiques dans le contexte du processus de grammatisation. La question pour Bernard, c'est de penser ces ontologies, non pas par rapport à une réalité donnée ultime, mais de penser finalement l'ontologie comme un avatar des techniques de grammatisation, des technologies, pardon, de grammatisation, comme une manière de discrétiser finalement le monde, une manière des sens techniques. Ce qui, je pense, nous conduit aussi à reprendre la réflexion de Heidegger sur la question de la technique, puisque pour Heidegger, la technique, l'essence de la technique, c'est finalement le raisonnement, qui fait remonter cette forme d'un raisonnement à la métaphysique et à l'ontologie. Finalement, toute la tradition occidentale amène à la technique, et toute la tradition métaphysique occidentale amène à la technique. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que nos systèmes techniques, nos systèmes où le symbolique vient s'incarner dans du matériel, sont des systèmes, finalement, qui prennent cette tradition métaphysique occidentale et qui l'incarnent dans du matériel. Ça, évidemment, pour le philosophe, c'est très intéressant. Ce qui peut être aussi critiquable, pourquoi pas une autre tradition, avec quels effets, etc., etc. Mais, en disant que il y a cette incarnation dans du matériel, on change aussi de sphère. Et là, il y a des conséquences qu'il faut, je crois, penser. Alors, il y a des concepts qui peuvent, qui sont pas des concepts technophobiques, on va dire, parce que Heidegger, il y a quand même une approche, paradoxal et complexe, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, plus on raisonne d'un côté, plus on met de l'autre côté les possibilités d'ouverture. C'est un peu un rapport complexe à la technique et à la philosophie. Mais des concepts comme celui qu'avait proposé Bruno Bachimon d'une artefacture, c'est-à-dire d'un fond où il n'y a pas opposition entre la nature, la culture et la technique, mais où la technique est toujours déjà co-présente, avec un horizon humain. Et moi, dans cette perspective-là, je parle, alors je ne connais pas le concept de Bruno Bachimon à l'époque, mais d'un processus de devenir artefact des questions philosophiques, voire de la philosophie elle-même par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, et j'appelle ça l'artefactualisation. Je pense plutôt en termes de processus. Par rapport à la journée donc PhiloWeb, on a pu avoir des points d'entrée pour associer réflexion philosophique et questions d'ingénierie, questions techniques, à savoir la question du nom propre et son rapport aux URI, donc aux identifiants du web. Est-ce que ce sont des idées non propres comme les autres ? Vaste question. La question du rapport entre les ontologies philosophiques et les ontologies informatiques, évidemment. Là encore, vaste question. Et puis, quelque chose auquel j'ai fait rapidement allusion durant cette journée, j'ai pas eu le temps d'en parler, c'est la transition entre une logique, la logique, et ce que Pat Hayes a appelé la blogique, la web logic, où justement il dit, voilà, pour comprendre le web, il faut une logique adaptée au web, où au lieu d'avoir des noms propres qui ne signifient rien, on les remplace par des URI, et donc on voit ici comment la technique vient s'insérer dans ce qui semble plus opposé à la technique, c'est-à-dire le logique, ce qui semble le plus abstrait, le plus à l'écart de l'empirique. Ça nous amène aussi, je crois, à réhistoriciser des questions philosophiques pour voir comment des concepts deviennent les éléments, ça rejoint ce qu'on a abordé en tout premier lieu au cours de cette séance, comment des concepts philosophiques, des éléments philosophiques, des théories philosophiques, deviennent des éléments d'une généalogie technologique. Comment le nom propre devient l'élément d'une généalogie technologique qui concerne le web. Comment ces conceptions du nom propre ont eu une importance manifeste pour comprendre, créer l'architecture du web. Il y a évidemment un processus de standardisation et d'analyse après coup, mais il y a quand même aussi quelque chose qui est, qu'il faut prendre en compte de ce point de vue-là. Ça amène la philosophie à s'interroger sur une catégorie qu'elle ne manipule pas habituellement, c'est la catégorie, je pense, de conception. Qu'est-ce que c'est que concevoir quelque chose ? Ce qui amène aussi à repenser le statut du philosophe. Par exemple, nous, à l'IRI, on est aussi des gens qui produisons des choses, donc on est obligé de penser notre activité en tant que producteur d'artefacts. Hein, ce n'est pas une posture traditionnelle pour le philosophe. Ça a été dit tout à l'heure, je crée l'objet que j'étudie. Il y a aussi ça. Hein. Je crée l'ontologie des folksonomies que j'étudie. Mais ça amène... Oui.
D'une manière générale, je crois qu'on pourrait avoir une relecture de la tradition. Tu dis que une des questions que la philosophie ne traite pas toujours, si j'ai compris, c'est l'aspect de la conception. Qu'est-ce que c'est que la conception ? Conception, c'est aussi, pour moi, l'éducation et l'apprentissage. Il y a des philosophes qui reste en marge la plupart du temps de la question de l'apprentissage. Heidegger en fait partie. Heidegger, le Dasein, l'être-là, la factualité, ne se pose pas les questions de l'apprentissage, du jeune homme. Tu es toujours homme, tu es toujours
être-là.
Tu es jeté, tu es là. Donc il n'y a pas des questions d'apprentissage. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, tu passes à côté de la technique. Dès que tu as un philosophe qui est confronté à comment j'apprends, les questions d'apprentissage, de pédagogie, la question de la technique se pose nécessairement. Elle s'est posée, même si elle était refoulée chez Platon. Mais même, tu prends un Wittgenstein, il passe son temps à dire, d'ailleurs, il a été enseignant, Wittgenstein.
Oui, il a été ingénieur.
Ouais, il se pose la question. C'est pour ça qu'il commence par la critique de l'approche de Saint-Augustin du langage. Il commence par là, par la désignation des termes. Non, ça ne se passe pas. Il commence par là parce qu'il a... On va terminer. Merci. Parce qu'il commence à... Comment les gens apprennent ? Comment les enfants apprennent ? Tous les philosophes qui se posent la question de l'apprentissage ont nécessairement, à un moment donné, un regard sur comment je conçois, comment j'apprends, comment je transmets, etc. C'est juste la parenthèse. Parce que ta remarque était vraiment...
Je termine justement, mettre le maximum de choses pour le temps restant. Par rapport à Tim Berners-Lee, ça rejoint une de ses réflexions qui est très, très énigmatique pour nous. Il a dit, voilà, parlant des gens du W3C, nous ne sommes pas des philosophes expérimentaux, mais des ingénieurs philosophiques. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle catégorie des ingénieurs philosophiques ? Et ça, je pense que c'est quelque chose auquel on peut réfléchir. À partir du moment où on pense que le concept philosophique peut devenir l'élément d'une généalogie technique, je pense qu'on a, technologique, je pense qu'on a l'esquisse d'une réponse. Je vais passer sur un certain nombre de choses qui me semblaient importantes, mais par rapport à PhiloWeb, je pense qu'il y a eu deux choses. J'ai dit, chacun a présenté ses travaux, donc il y a un début d'hybridation, mais il n'y a pas eu encore ce second degré qui est le degré de la réflexivité. Finalement, une fois qu'on a présenté chacun notre rapport à cette discipline ou approche nouvelle qui serait la philosophie du web, mais plus fondamentalement au web lui-même, parce que c'est de ça dont il est question ici, chacun avec son background, comment est-ce qu'on essaye de théoriser ça de manière plus générale et d'inscrire ça dans un réexamen de nos pratiques, y compris de nos pratiques théoriques, parce que pour moi il y a une pratique et une pratique théorique, et moi je vois pas les concepts théoriques comme étant des choses, c'est des choses de mon quotidien, je les manipule tous les jours, pour moi c'est très très, les mains dans le cambouis, c'est du théorique, hein. Théorique c'est les mains dans le cambouis aussi, les gens qui vont à la bibliothèque c'est les mains dans le cambouis, c'est pénible, c'est fatigant, on est fatigué, voilà, si j'ai pas mangé je peux pas réfléchir, c'est très très concret hein, le théorique, bon, voilà, juste l'occasion de redire ça, et quand on derrière on fait des artefacts avec, c'est encore plus concret, pour le coup... Il n'y aurait pas le web s'il n'y avait pas ça. Par rapport à tout ça, donc peut-être pour deux derniers éléments pour terminer. Henry a fait référence à Frege dans une réflexion avec Manuel Zakla, donc une discussion avant PhiloWeb. Lui, il n'aime pas du tout hein, Frege. D'ailleurs, il a mentionné tes propos, il n'était pas du tout d'accord avec ce que tu disais. Mais c'est très bien, tout ça nourrissait le débat. Et on en est arrivé aussi avec Eddie Soulier, qui est un professeur à l'UTT, l'idée qu'il y avait aussi la possibilité d'avoir des agencements. C'est-à-dire que l'artefact, c'est pas reproduit pas finalement les oppositions théoriques qu'on pouvait avoir avant. On peut avoir, au niveau technique, des systèmes dans lesquels finalement l'intelligence artificielle fonctionne très bien, donc des systèmes fermés où ça marche très bien. On peut avoir des systèmes de technologie relationnelle ou transactions sémiotique pour parler un peu comme Manuel, on a besoin d'approches beaucoup plus pragmatiques, donc inspirées par exemple chez lui par Dewey, et pour analyser les textes, d'approches fondées sur l'herméneutique, type Schleiermacher, avec un linguiste français comme François Rastier. Et donc, à partir de réalités différentes du web, on peut comme ça articuler des théories différentes, des approches différentes. Je pense qu'une des grandes questions aujourd'hui, c'est ça que l'artefact fait, c'est l'artefact, il n'oppose pas oui ou non, blanc ou noir, ou A ou non, plutôt, mais il oblige à agencer, finalement, des approches très différentes, et parce qu'à partir du moment où ce sont elles-mêmes des technologies différentes, eh bien, on peut les appliquer à des contextes différents. Et l'autre élément, c'est justement le fait qu'à partir du moment où ces concepts de la tradition philosophique qu'on peut, dont on peut nier la pertinence, je pense que par rapport à l'héritage fréguien, on peut dire, mais non, c'est pas le bon héritage, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une historicisation dans la mesure où c'est cet héritage-là qui a donné naissance au web, c'est à la fois très critiquable, et en même temps, ça demande à être analysé en tant que tel, en dépit même de la critique qu'on peut adresser à cet héritage théorique, parce que ça a donné ce résultat-là, qui lui-même, en donnant corps à ces concepts, en leur donnant une chair numérique, une chair technologique, les a profondément modifiés, et nous oblige justement à les repenser. Quand une ontologie, qui était une ontologie philosophique, un objet presque purement théorique, devient une ontologie informatique, ça devient un objet qui s'insère dans des relations qui sont tout à fait différentes, tout à fait nouvelles pour un objet philosophique, à savoir des relations juridiques, des relations économiques, des relations humaines, etc., etc. Et toutes ces dimensions additionnelles, c'est pour moi un défi pour la philosophie que d'essayer de les prendre en compte. Voilà.
Merci. Je suis désolé, mais ça aurait mérité encore une heure, mais on a mal géré le timing. Et, en tout cas, pour rebondir là-dessus... Tu continues, il y a des entretiens avec Henry en vidéo. Henry, tu vas publier trois ton papier ou le rendre disponible. Et tu continues à avoir des entretiens.
Tout à fait. Donc on a sur un compte sur Dailymotion qui s'intitule PhiloWeb, avec des entretiens avec Bernard Stiegler d'ailleurs. Il y a cette série d'entretiens, des entretiens avec Manuel Zaklad, avec d'autres gens. Et on continue parce qu'on va présenter les travaux qu'on a faits devant le W3C. On va essayer d'avoir Tim Berners-Lee pour avoir son opinion justement sur la philosophie du web. Avoir d'autres personnes aussi qui ont des avis très très différents, des approches très très différentes. Donc c'est intéressant pour ça aussi d'agencer ces discours et ces individus.
Je mettrai le lien dans la liste de diffusion de manière à ce que vous puissiez y aller. Merci pour votre présence et puis on s'arrête tout de suite parce que sinon on ne pourra plus revenir. Merci d'être venu.
Merci à vous.